France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous intéresser à votre activité favorite, celle d'écouter de la musique. Celle que vous écoutez bien sûr grâce à France Musique, mais aussi à vos disques préférés. Écoutez, oui, mais comment? En suivant distraitement le piano, en chantant avec la prima donna, en sifflotant avec le violoniste? Et si nous essayons d'aller un peu plus loin, de descendre un peu plus profondément sous la surface mélodique? Pour nous guider, Jean-Jacques Griot, mon invité, a rédigé un guide qui donne des conseils très faciles à suivre, qui permettent d'améliorer son écoute, de la rendre plus active et donc plus sensible. Écoutez la musique classique, ça s'apprend, de Jean-Jacques Griot, aux éditions Erol. Mathias Gurne, baryton, Jan Lisiewski, piano, clague, plinthe, un lead de Beethoven. Bonjour Jean-Jacques Griot.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Écoutez la musique, ça s'apprend, je l'ai dit en introduction, c'est un guide, est-ce que le terme vous va?
Alors, guide, le terme peut m'aller, je n'aime pas le terme de méthode, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule méthode, oui, ou qu'une seule façon de faire. Donc guide, j'aime bien, voilà, peut-être livre de conseils pratiques. Voilà, ça m'irait assez bien.
Alors justement, à propos de conseils pratiques, je tiens tout de suite à préciser que c'est un livre justement interactif qui s'accompagne, ce qui devient comme courant aujourd'hui dans le domaine de la musique, de QR codes, qui permet, grâce à son téléphone, d'écouter les musiques auxquelles vous faites référence, parce qu'il y a, je crois, une cinquantaine d'extraits musicaux. On commence d'abord par découvrir les instruments, le hautbois, le violoncelle, le basson, avec des compositeurs comme Hersant, Bach, Saint-Saëns, et puis après on s'aventure dans le répertoire. Vous êtes musicologue et vous faites régulièrement justement des conférences, des ateliers d'écoute, m'avez-vous dit?
Oui, c'est ça. Pendant 20 ans, j'ai donné des conférences. Je n'aimais pas le terme de conférence, je préférais le terme de préparation à l'écoute des concerts. Et pendant ces nombreuses années, j'ai pu passer pas mal de temps avec du public qui venait régulièrement, donc que j'ai appris à connaître. On a pu échanger sur savoir ce qui était pertinent pour eux dans les informations que je pouvais partager avec eux pour qu'ils puissent vraiment profiter du concert. Et donc tous ces échanges ont nourri une façon de faire, une approche, des conseils pratiques, et que je pouvais valider avec eux parce qu'on se connaît assez bien. Donc à la fin, ils me disaient, bon alors ça c'était pas tout à fait adapté, par contre ça c'est très bien. Et pour vous donner un exemple très concret, je me suis longtemps questionné sur le fait de savoir si j'avais le droit de parler sur la musique au moment où je diffuse des extraits. Mmh. Et le jour où je l'ai fait, des personnes m'ont dit « Alors là, c'est vraiment bien quand vous parlez, vous nous donnez une indication pendant que la musique. » Parce que on est tellement respectueux de la musique, on se demande si c'est adéquat de parler, puisque la musique doit se suffire à elle-même. Mais à partir du moment où on m'a validé ce point-là, je me suis dit « Bon, alors là, c'est vraiment utile, je peux le faire, j'ai le droit de le faire, puisque ça sert l'écoute.
Mmh. » Alors, on ne va pas pouvoir exactement procéder de même dans cet entretien, mais ce n'est pas grave. La mélodie, le lead de Beethoven que j'ai choisi en introduction, figure comme les trois autres œuvres que nous écouterons tout à l'heure dans votre livre, parmi les œuvres que vous mettez en avant. Alors là, donc dans ce lead de Beethoven, qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il faut entendre, à quoi doit-on être attentif?
Peut-être un petit conseil, parce que je ne sais pas ce qu'il faut écouter, c'est vous qui écoutez, vous avez tout le temps la liberté d'écouter de la façon dont vous le souhaitez. Le conseil, ce serait peut-être d'écouter l'accompagnement, parce que naturellement, on écoute tout le temps, évidemment quand c'est un livre, on porte toute notre écoute sur la voix, bien sûr. Donc de promener votre oreille sur l'accompagnement, et vous découvrez à ce moment-là qu'en restant sur l'accompagnement, vous entendez en plus la voix. Alors que si vous restez uniquement sur la voix, l'accompagnement est un peu derrière. Et ça, c'est tout simplement de l'ordre de la décision. C'est uniquement ça, de se dire, tiens, je vais écouter le piano, vous vous concentrez et vous allez bien sûr suivre le piano et la voix au-dessus. Donc au départ de ce lead, vous allez entendre que le piano double la voix, il joue, ce sont les mêmes notes. Et un peu plus loin, eh bien, le piano va changer de type d'accompagnement et comme par hasard, ça correspondra à la deuxième strophe. Voilà. Moi, je dis simplement ça. Après, c'est à vous à voir ce que cet accompagnement vous suscite chez vous et à votre avis, pourquoi il change d'accompagnement à cet endroit-là. Mais si on ne fait pas juste cette petite dissociation d'écoute, eh bien, on passe à côté de ça. C'est dommage.
Et justement, cette écoute dissociée, comme vous la présentez, Jean-Jacques Grieux, dans votre livre, je pense que c'est une des clés, justement, pour enrichir son écoute. Parce que c'est vrai que, je dirais, ou spontanément, naturellement, ou peut-être un peu paresseusement, on est enclin à écouter, en effet, la mélodie, ce qui est au-dessus, et puis ce qui est en dessous, parfois on en fait un peu l'économie, et ce qui est vraiment dommage si on veut avoir une écoute un peu plus active.
Oui, et on peut le faire de façon tout à fait progressive. Donc on commence simplement avec, par exemple, une sonate pour violon et piano où on a vraiment des sons qui sont assez distincts. Et puis on peut, avec des exercices progressifs, aller de plus en plus loin dans la partition. Et c'est très drôle quand je partage ça avec des musiciens parce qu'ils me disent, ben évidemment. Parce que évidemment, quand on est musicien, quand on a fait des études de musicologie, on a l'habitude de promener son oreille dans toute la partition. Donc ils le font en fait sans savoir qu'ils le font. Et c'est intéressant pour des personnes qui sont peut-être moins aguerries de prendre ce réflexe-là. Je dis pas qu'il faille, c'est utile de le faire tout le temps, mais simplement c'est sous forme de jeu. Pendant que vous écoutez une pièce, de temps en temps, dites, tiens, qu'est-ce qui se passe en dessous? Tiens, je peux passer au-dessus. Vous pouvez décider de ce que vous écoutez. Vous pouvez faire votre scénario musical sur une pièce, ce qui fait que vous pouvez écouter une même pièce 50 fois de façon différente.
Ouais, ouais. Et à chaque fois, effectivement, l'écoute sera régénérée et démultipliée. Alors, je tiens à préciser que votre livre ne s'adresse pas du tout à des spécialistes, à des musicologues ou à des étudiants en musicologie, mais à des mélomanes.
Oui, à des mélomanes, et inutile d'être musicien. Je le précise tout le temps parce que c'est vraiment une des phrases que j'ai le plus entendues pendant toutes ces années de conférences, c'est « comme je ne suis pas musicien, je ne peux pas parler de ce que je viens d'entendre ». On ne dit jamais ça quand on va au musée. On ne dit jamais « comme je ne suis pas peintre, je n'ai pas... Je... » Voilà. Donc il y a vraiment une croyance complètement ancrée autour de la musique et qu'il faut absolument changer. Parce qu'il n'y a aucune raison, on a tous la liberté de parole, on a tous des oreilles et on a tous la liberté de donner son avis.
L'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Kurt Masur, c'était le début de l'Andante de la symphonie numéro 4 dite italienne de Félix Mendelssohn. Jean-Jacques Griot, alors à nouveau une œuvre qui figure dans votre livre. Écoutez, la musique classique, ça s'apprend. Alors là, pareil, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que nos auditeurs auraient dû repérer?
Alors, une proposition encore.
Oui, bien sûr.
Là, on est toujours autour de l'idée de dissocier son écoute. C'est vraiment d'écouter les notes piquées qui sont présentées par les contrebasses et les violoncelles en bas et de dissocier avec le très joli thème qui est au-dessus. Et on peut vraiment avoir un aspect rythmique en bas et puis plus mélodique en haut, ce qui permet de vraiment dissocier et de passer de l'un à l'autre. Et pour l'anecdote, je l'ai choisi parce qu'on sait que Mendelssohn aurait voulu mettre en musique le pas des pèlerins à Rome pendant cela. Je dis bien aurait parce qu'on n'a pas la certitude de cela. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que ça peut être ça, mais si vous faites une autre histoire musicale ou un autre schéma, ou même pas, vous racontez pas d'histoire, vous avez aussi le droit. Ce que je veux
ça
dire, c'est
aussi,
que faut toujours prendre des précautions avec les anecdotes autour des compositions. Quand c'est vrai, c'est validé, revendiqué par le compositeur, évidemment que c'est intéressant pour l'écoute, mais sinon, il faut qu'on reprenne un peu de liberté avec notre écoute aussi.
Oui, d'autant que la musique n'a pas pour objet d'être toujours descriptive.
Absolument.
Ouais. Et alors là, effectivement, le pas des pèlerins, c'est cette marche régulière des cordes qu'on entend en bas.
Voilà, et qui nous permet de à la fois de maintenir notre attention parce qu'on a cette régularité en bas, et puis évidemment, au-dessus, dans la ligne mélodique, on a aussi beaucoup de tension et de détente. Et ça, c'est une autre clé d'écoute assez puissante, parce qu'à mon sens, en disant simplement tension et détente, on résume un peu toute l'histoire de la musique.
Oui, exactement. Alors, il y a de très, j'ai dit, une cinquantaine de renvois à des œuvres, des extraits d'œuvres qui balisent votre livre, Jean-Jacques Griot. Il y a même les 4 minutes 33 de silence de John Cage, par quand même, rien moins que l'Orchestre Philharmonique de Berlin avec Yuri Petrenko. Vous n'avez pas choisi les plus mauvais interprètes.
Non, puis c'est passionnant, c'est cette œuvre autour du silence, parce que ça aussi, je trouve que c'est une vraie clé d'écoute extrêmement puissante pour la musique, puisque on a des silences nombreux dans la musique elle-même que l'on n'entend pas forcément, mais une fois qu'on les identifie, c'est une manière très puissante de créer des effets. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand on étudie en musique, quand on apprend nos lectures rythmiques, on nous apprend deux croches noires, chute, deux croches. Donc on le dit, ce chute, on l'entend. Donc ce que je propose dans les ateliers et les formations, c'est tous les moments de silence, dans un premier temps, de simplement dire silence à haute voix, pour qu'on puisse déjà en prendre conscience, et ensuite de le réécouter sans le dire. Et à ce moment-là, ceux qui participent aux ateliers disent « Ah, mais je n'avais pas entendu qu'il était aussi long ou aussi puissant que ça ». Voilà. Donc c'est vraiment aussi une belle clé d'écoute. Puis bien sûr, on a tout le temps aussi les silences à la fin des œuvres. Vous savez, quand on a le chef qui tient les mains en l'air, savoir si...
En espérant que personne ne
le dise. Espérant, mais il y en a toujours un qui est pressé de monter son enthousiasme.
Voilà.
Donc ça arrive tout le temps. Mais voilà, donc vraiment les silences. Donc je voulais mettre cette composition parce qu'elle interroge ça.
Mmh. Et alors justement, autour du silence se développe l'idée d'attente aussi de l'auditeur.
Oui, je pense que les silences, ils peuvent avoir plein de fonctions différentes.
Ouais.
Ça peut être soit ils sont complètement emplis de la musique qui vient juste avant, donc là on est dans un moment, soit c'est un moment où on attend la suite, soit ça peut être un silence complètement creux qui nous fait tomber quelque part et hop, voilà, on est encore en état de suspens. Donc on peut vraiment les qualifier de façon très différente. C'est très intéressant, les silences en musique. Mmh.
Alors justement, comment vous les avez choisis pour les faire écouter à travers cette liste et ces QR codes à vos lecteurs,
Jean Griot? J'ai choisi des œuvres qui me semblent assez emblématiques. Par exemple, c'est le 4e concerto pour piano de Beethoven.
Oui.
Voilà, où là, il y a de très beaux silences.
Ouais,
dans le mouvement lent. Et là, ce qui est merveilleux à entendre, c'est qu'ils sont de plus en plus courts. Au départ, ils sont très lents et ils se resserrent de plus en plus jusqu'à ce que le piano puisse prendre complètement la parole. Donc ça, c'est un très bel exemple pour écouter les silences.
Mmh. Et puis d'autres œuvres aussi qui peut-être sollicitent je dirais pas l'impatience, mais l'écoute en éveil des auditeurs. J'ai repéré plutôt le prélude de la Traviata.
Oui, le prélude de la Traviata qui est très puissant. Dès le départ, on a une phrase musicale, on a tout de suite un silence. Et la deuxième phrase est encore un silence. Et là, si vous mettez juste votre écoute sur les silences, on a encore plus de plaisir à l'entendre. Et simplement de se dire que simplement le silence est extrêmement puissant en musique.
Ben, on va essayer. C'est l'exercice que je vous propose. L'orchestre de l'Opéra d'État de Bavière sous la direction de Carlos Kleiber, c'était le prélude de la Traviata de Giuseppe Verdi. Jean-Jacques Griot, donc les silences qui ponctuent le tout début donc, de ce prélude de la Traviata.
Il y a à la fois les silences et puis à la fois, dès le départ, on peut noter des lignes mélodiques descendantes. Ah. Donc dès le départ, on a déjà presque la fin de l'histoire.
Ouais, exactement. Ouais. Il est évidemment impossible, c'est pas l'objet de notre entretien, d'épuiser votre livre qui donne vraiment beaucoup de clés d'écoute dans un langage toujours simple, accessible. Je pense que tout mélomane fera son miel de ce livre. Si on s'oriente vers la musique vocale, évidemment, il y a tout un tas d'outils qui sont donnés aux compositeurs pour mettre les mots, les paroles en valeur. Dans la musique baroque, il y a ce que vous rappelez, les figuralismes, c'est-à-dire de différentes figures mélodiques qui montent, qui descendent, des dissonances pour exprimer. Comment est-ce que, quand on aborde ce domaine qui est vraiment immense, comment est-ce qu'on choisit les œuvres, comment est-ce qu'on choisit les thèmes, comment est-ce que vous avez organisé cette partie sur le traitement du mot et de la parole, Jean-Jacques Griot?
Ben, je me suis un peu basé sur les figuralismes musicaux.
Ouais.
C'est la traduction en musique du sens des mots. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Baumeister en 1606 dans son traité, où il indique de façon spécifique une figure qui, c'est l'hypotyposis, qui est une figure musicale, traduction du sens des mots. Il indique aussi dans ce guide, il parle du silence. Il dit qu'on peut utiliser le silence, déjà en 1606.
Ouais, ouais, ouais.
Mais là, c'est la première fois, en tout cas, on fait le lien entre la musique et le sens qu'elle peut avoir. Donc, pour ça, il y a de nombreux exemples dans l'histoire de la musique. Et à mon sens, pas qu'à l'époque baroque. Évidemment que c'est à l'époque baroque que ça s'installe. Mais je pense que c'est une clé d'écoute que l'on peut vraiment utiliser, même pour les siècles qui suivent l'époque baroque, parce que c'est assez éclairant quand on fait une adéquation entre... C'est pas forcément que des textes chantés, d'abord. Mmh. Hein, ça peut être juste de la musique descriptive. Mais quand on arrive à faire une connexion, je trouve que ça crée un sentiment d'intimité plus fort avec l'œuvre.
Hervé Lamy, ténor, la Chapelle Royale sous la direction de Philippe Hervègue, c'était l'introit, le début du Requiem de Jean Gilles, une des œuvres que vous avez, que vous présentez et que vous avez choisi de faire entendre, Jean-Jacques Grieux, dans votre livre Écoutez la musique classique, ça s'apprend. Alors là, qu'est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce que nous fait entendre Jean Gilles dans le début de ce Requiem?
Là, il y a quelque chose qui s'entend très bien, c'est simplement la tenue. Je crois que c'est même une ronde ou deux rondes sur le mot éternité. Donc voilà, ça c'est un exemple très simple de figuralisme musical, c'est la traduction en musique du sens des mots. Si vous deviez mettre en musique le mot éternité, il y a évidemment plein de façons de le faire, et Jean-Gilles a choisi simplement de le faire tenir une durée assez longue, et vraiment à l'écoute, on l'entend, parce que quand on l'entend, une première fois on se dit mais jusqu'où il va le tenir. Donc ça crée en plus une tension jusqu'au bout de la note. Mmh. Donc c'est vraiment notable et c'est vraiment la définition même du figuralisme musical qui est vraiment de mettre à un moment donné une lumière, un éclairage particulier sur un mot et ce qui est avant et après est un peu moins signifiant justement pour que ce mot d'éternité, cette tenue ressorte d'autant plus. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est presque une façon de dire attention, ici il se passe quelque chose d'important. Et quand vous écoutez ensuite cette œuvre avec juste cette idée-là en tête de l'éternité qui tient, je vous assure que vous le vivez complètement différemment. Mmh. Mmh. Parce que vous êtes vraiment dans ce, vous comprenez le sens du, l'adéquation entre le mot et la musique et le but de toutes ces clés d'écoute, c'est de pouvoir entrer dans la musique et d'avoir plus de plaisir. Parce que c'est vraiment la finalité, c'est quand même ça.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Jacques Grieux. Je rappelle le titre de votre livre, Écoutez la musique classique, ça s'apprend. Et c'est publié aux éditions Erol. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Ryan Berki, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je vous propose de parcourir le carnet brun de Richard Wagner, des écrits présentés par Nicolas Crapan. D'ici là, excellente journée, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.